Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Cette supplique tirée du canon romain, c'est-à-dire la première prière eucharistique, juste avant la consécration, résume assez justement, me semble-t-il, la prière d'ouverture ainsi que les lectures et l'évangile de ce dimanche. Je vous propose de commenter ces trois propositions à la lumière des textes que l'Église offre à notre méditation aujourd'hui. La première demande, « Assure toi-même la paix de notre vie », rappelle le ton et le contenu de la prière d'ouverture. « Donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets. » Cette prière oriente notre regard vers le haut, c'est-à-dire vers les promesses que Dieu s'est engagé à accomplir pour nous. Cependant, l'accomplissement de celle-ci suppose de notre part un certain amour, l'amour précisément de ce que Dieu commande. Augustin dira que la paix est la tranquillité de l'ordre, et l'ordre consiste tout simplement à accomplir ce qui est ordonné à notre fin, qui est la béatitude, la vision de paix, la vision de Dieu. Mais la paix que nous demandons à Dieu est particulière. Il m'a semblé opportun d'en parler en ces jours où le pape demandait que l'on priât pour la paix. Cette demande est reprise au cours de chaque messe après le Notre Père. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La traduction française, malheureusement, ne rend pas la formulation latine. Ce ne serait pas très grave si la dite formulation n'était tirée directement de l'Écriture, de la bouche même de Jésus. La version latine dit en effet « Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis ». Le verbe latin « relinquere » dont est tirée la forme « relinquo » ne signifie pas en français « laisser », mais « abandonner ». Il a donné en français « déréliction ». Ainsi, nous découvrons que Jésus nous abandonne la paix. La paix qu'il nous abandonne est celle du monde. C'est un peu s'il nous disait « votre pseudo-paix ne m'intéresse pas, elle n'est pas authentique ». Débrouillez-vous avec elle. La vraie paix, c'est celle que moi, je vous donne. Voulons-nous recevoir cette paix? Nous avons donc une très grande responsabilité dans le processus de paix. La paix dans le monde dépend de la manière dont nous recevrons la paix de Jésus. Autrement dit, la paix dans le monde dépend de la paix de notre cœur. Et cette paix-là, nous aurons à en rendre compte, car elle dépend de notre consentement personnel, de notre engagement personnel. La paix dans le monde commence par ta propre conversion. C'est grave. Que se passe-t-il lorsque l'on se trompe d'engagement? Eh bien, objectivement, on va dans le décor. Et on entraîne parfois les autres avec soi-même. Aller dans le décor est précisément le sens du verbe « pécher » tel qu'on le trouve dans la Bible. Étymologiquement, le verbe « pécher » signifie « manquer la cible », »,« viser à côté ». Contrairement à ce que l'on croit, le péché ne désigne donc pas un manquement à une prescription. En fait, la prescription est faite pour nous orienter dans la bonne direction. La prescription est comme ces panneaux routiers indicateurs qui nous permettent de prendre la bonne route afin d'atteindre le but que nous nous sommes fixés. Dès lors, prescription et destination sont tout de même très liées, car si l'on ne suit pas le panneau indicateur, on risque fort de ne pas aboutir où l'on devait. Mais elles ne doivent pas être confondues. C'est justement ce que Jésus indique dans l'Évangile, lorsqu'il dénonce ces gens qui pensaient que manger et boire en sa présence et écouter ses enseignements suffisait. Non, cela ne suffit pas. Et c'est important de le relever au moment où nous venons d'entendre sa parole. Ça ne suffit pas. Au moment où nous allons manger le corps et boire le sang du Christ, ça ne suffit pas. En vérité, Jésus nous demande une participation. Le salut n'est pas automatique, même s'il est gratuit. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La damnation est possible. C'est la deuxième supplication placée en exergue de mon propos. La semaine dernière, l'évêque qui présidait a profité du thème du feu pour parler de l'enfer. Tel est bien le sujet ici. Savez-vous que l'enfer est nécessaire à la garantie de notre liberté ? Notre liberté doit nous permettre d'atteindre le but que Dieu nous a fixé, qui est de vivre en sa présence éternellement. Jusque-là, pas de surprise. Il doit donc nécessairement exister un état ou un espace où la créature, ayant fait un usage abusif et mauvais, détourné de sa liberté, puisse vivre éternellement séparée de la présence de Dieu. Eh bien, cet espace, c'est l'enfer. L'enfer est un état dans lequel on souffre éternellement d'être aimé de Dieu. En effet, Dieu aime tout ce qu'il crée, et Dieu ne change jamais d'avis. Le damné refuse éternellement l'amour dont Dieu l'aime. « Je ne veux pas de la manière dont tu m'aimes. » Sa souffrance consiste à être aimé contre son gré. Pour le faire comprendre, l'image suivante peut nous aider. Chacun de nous a besoin d'oxygène pour respirer. Eh bien, imaginez que vous soyez allergique à l'oxygène. À chaque respiration, vous souffrez. C'est ça l'enfer. Jésus est venu nous arracher à cette damnation, mais elle reste possible ici-bas si nous le voulons. Et à force de trop longtemps vouloir des actes mauvais, l'âme finit par ne plus pouvoir s'en débarrasser. Le diable et les mauvais anges l'ont voulu. Ils ne supportaient pas de recevoir de Dieu la béatitude. Ils voulaient la prendre par eux-mêmes. Le péché originel est l'exact reflet de cet acte d'orgueil. Aussi monte vers Dieu cette dernière supplication, « Veuille nous admettre au nombre de tes élus. » Comme vous le devinez, cette élection demande aussi notre participation. Elle est donnée. Elle est offerte au pied de la croix, au prix de la passion. Elle est offerte par la résurrection au matin de Pâques et à l'ascension de Jésus. Mais elle demande notre consentement et notre engagement, elle aussi. C'est ce qu'explique la deuxième lecture en particulier. Il faut régulièrement corriger notre trajectoire. C'est un peu comme les pneus d'une voiture qui se dégonfle. Quand ça manque d'air, ça tire à droite ou à gauche. Et l'air, là, c'est le Saint-Esprit. Cette participation ne consiste pas en des actions à accomplir, à comptabiliser ou bien à des médailles à accrocher sur sa poitrine, comme ont l'air de le penser ceux dont Jésus parle dans l'Évangile. Il s'agit de toujours tout recevoir, comme les enfants savent le faire, la paix, le salut, la grâce. La petite Thérèse dira à sa sœur Pauline, « Il faut consentir à rester pauvre et sans force. » Voilà le difficile. C'est l'exact opposé de l'esprit du monde. Pouvoir, domination, maîtrise, contrôle, tout est sous contrôle. C'est la porte de la damnation. Elle savait de quoi elle parlait, la petite Thérèse, et ils en font l'expérience, ceux dont le corps ne répond plus aux ordres qu'on lui donne. Il y a quelqu'un qui comprend très bien ce que je dis en ce moment. Ils sont forcés de tout recevoir. Les bienheureux. Soyons donc les derniers à prétendre avoir fait le nécessaire. Soyons les premiers à toujours tout recevoir.